L'Amérique centrale, évidemment, Colombie, etc. Mais la Bolivie, on pense plutôt à ces grosses nanas avec un chapeau melon, ces quatre choses sur les hauts plateaux. Et donc ça nous interpellait, évidemment. On a fait quelques recherches, on est tombé sur ce parc Noël Kempf, qui a d'ailleurs, pour la petite histoire, inspiré via Percy Fawcett en 1912-13, lorsqu'il part tracer les frontières entre la Bolivie et le Brésil, qui font encore faux aujourd'hui. Ça inspire Sir Arthur Conan Doyle pour écrire Le Monde Perdu. On croit à tort que ça a été inspiré depuis au pic au Venezuela, mais pas du tout. C'est le plateau Capalula Meseta qui borde le parc Noel Kempf Mercado.
En Bolivie.
C'est ça, en Bolivie. Tout ça mis bout à bout, ça nous fascine, on se dit que c'est incroyable, il y a une histoire. Et puis on entend parler de cette lagune, il y a des légendes qui circulent, les peuples autochtones en ont peur, parce que visiblement ils se déplaceraient dans la jungle pour éviter qu'on la trouve. Alors évidemment, nous, de Suisse, avec notre équipement vidéo...
Impressionnant d'ailleurs.
Oui, on est parti avec peut-être un peu trop de matériel.
Combien de kilos ?
On a 200 kilos de matériel vidéo. Voilà, donc nous, on est tous... Martin et Vidia, c'est profession. Josh est monteur. Moi, j'ai une agence de communication à Montreux. Donc on aime bien la technique, la technologie, la belle image. Et c'est vrai que notre idée à la base, c'est de partir, essayer de découvrir cette lagune ou la redécouvrir. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'image des berges de cette lagune, donc extrêmement fascinant. Hein. En 2015, à l'époque, on trouve ça étonnant. Donc on se met en tête de partir trouver cette lagune et de ramener des images magnifiques, un film type BBC, etc.
Alors justement, type BBC, la BBC, on ne voit pas le matériel, on ne voit pas les difficultés, on ne voit pas l'envers du décor. C'est ce qu'elle a avec vous, on est immergé dans ce climat tropical, avec beaucoup de faune, y compris petite, des mygales, des insectes, des scorpions, et puis une faune qui n'est pas habituellement devant les caméras des hommes, des singes araignées. Vous pouvez nous parler justement des conditions, les auditeurs ont envie de voir le film, mais déjà d'entendre les conditions dans lesquelles vous avez réalisé ce film.
Bien sûr. Alors, comme je le disais avant, on part un peu la fleur au fusil, beaucoup d'espoir, beaucoup trop optimiste, avec nos GPS terrestres, etc. Et on arrive en Amazonie bolivienne et on se prend une monstrueuse claque, évidemment. Donc, comme je mentionnais, on s'était mis en tête de réaliser un beau film, belles images de la faune, etc. Mais en même temps, on s'est assez vite mis en tête d'archiver notre progression, etc. On ne savait pas exactement quelle allait être la formule définitive du documentaire. Et on s'est vite rendu compte, quelque part, que notre histoire, ce qu'on traversait, ces conditions extrêmement viles, comme ça, de cette Amazonie qui nous repousse, donc la nature est à cet état aussi brut, sauvage, elle vous dit « rentre chez toi, tu n'es pas forcément à ta place ». Et ce qu'on a traversé à ce niveau-là, c'était finalement peut-être plus intéressant que ce qu'on était venu chercher. Donc on était un moment un peu dépassé par les événements, mais on s'est dit, tiens, peut-être que notre histoire va être intéressante. Donc voilà, on est passé de réalisateur à protagoniste-réalisateur, et ça donne Objectif Sauvage sous sa forme actuelle, un documentaire immersif, on essaie de prendre le spectateur par la main avec nous dans la jungle, et puis de lui faire découvrir quelles sont les conditions réelles de travail d'un documentaire, de réalisation d'une expédition et d'un documentaire au fin fond de la jungle.
Et à propos d'immersion, vous êtes accompagné par des Boliviens, indígenas, dont un qui est plus âgé, qui est le guide, à la fois guide parce qu'il connaît les lieux, et aussi guide spirituel, il est presque un chaman.
C'est vrai, Don Pedro, alors un chaman, je ne sais pas, par contre, il a, évidemment, Bolivie, l'Amérique du Sud, sont des gens qui sont quand même assez fortement ancrés dans la chrétienté, très croyants, etc. Et ça, Don Pedro particulièrement, lui, avait tendance à regarder un petit peu au ciel pour essayer de trouver certaines réponses à nos questions.
Quand je dis chaman, je dis aussi proche de la nature.
Ouais, bien sûr, c'est vrai que lui, il avait travaillé à l'époque dans le parc Noel Kempf lorsque le gouvernement exploitait ce parc pour le caoutchouc essentiellement. Il était responsable d'un groupe de travail pour les lagons, déboiser, etc., puis ramener des essences de bois pour le caoutchouc. On a réussi à retrouver ce vieux monsieur qui était d'accord de nous accompagner pour nous montrer la voie, essayer de nous amener jusqu'à cette fameuse lagune Chaplin. C'est vrai qu'on a tissé des liens assez forts avec Don Pedro, c'est quelqu'un qui a à plus de 70 ans. On ne connaît pas son âge exact, hein, c'est, voilà, ça restera un mystère. Il a plus de 70 ans, parfois il bégaye un peu, il cherche vraiment ses mots en levant les yeux au ciel, et nous, ben, on doit nous calquer sur ses souvenirs qui datent de plus de 30 ans en arrière, et essayer de faire confiance non seulement à ses souvenirs, à son instinct, mais également à sa foi.
Et alors à propos de foi, il y avait aussi la foi de poursuivre l'aventure. Parfois vous aviez le désespoir, la lassitude de ne pas trouver les repères que vous cherchiez. Et on voit que là, vous êtes sensible à l'importance de l'eau.
Ah, bien sûr, l'eau, ça a été, comme mon collègue Ami Martin le dit une fois dans le film, l'eau est vraiment un élément central de notre progression, dès notre arrivée en Amazonie, parce que bah, c'est un facteur qu'on avait sous-estimé. Si vous voulez, sur Google Earth, on pouvait repérer la lagune Chaplin, hein, on la voit, hein, les gens peuvent aller sur Internet, ils vont la voir, ils vont se dire, mais c'est nul, elle est là, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces légendes, voilà, et c'est un petit peu la même réflexion qu'on s'est fait nous, quand on est parti de Suisse. Le dernier camp, qui était un camp scientifico-touristique, qui a fermé au début des années 2000, lorsque le gouvernement a cessé d'amener du financement dans le parc,
Los
Fieros se trouve à plus ou moins 30 km à vol d'oiseau de la lagune. Donc c'est notre point de départ. On arrive plus ou moins péniblement en jeep jusqu'à ce qu'on a abandonné. Et depuis là, on part à pied avec nos sacs à dos et on doit rejoindre, on devrait en théorie rejoindre la lagune sur 30 km à travers la jungle. Et on ne se rend pas compte que 30 km, à la progression à laquelle on avançait, qui n'était pas celle qu'on envisageait, eh bien, ça nous fait consommer beaucoup d'eau. Et l'eau, ça pèse beaucoup. Donc voilà, il y a eu tout vraiment un gros souci logistique. Et c'est vrai qu'après 2 jours, on s'est dit, on ne va jamais y arriver. On n'a pas d'eau, on est paumé, on ne trouve pas les repères qu'on veut. Enfin, voilà, c'était un petit peu galère, c'est vrai. Et l'eau, pour ne pas forcément tout spoiler dans le film, ça a été vraiment l'élément le plus difficile à maîtriser. Et on s'est retrouvé vraiment, vraiment dans une situation délicate à cause de l'eau dans la jungle.
Alors Cédric, précisons que la progression est difficile parce que vous devez macheter. Il y a tellement de plantes, c'est luxuriant, d'une part. Et puis d'autre part, il y avait un petit problème de degré par rapport à votre GPS.
Alors, oui, effectivement, on s'est perdu. On s'est clairement perdu dans la forêt. Hein. Le pourquoi du comment, ben ça j'invite évidemment les auditeurs à aller le découvrir en salle.
Sur grand écran.
Ouais, je pense que ça vaut la peine.
C'est préférable.
Mais c'est vrai que, comme je mentionnais avant, tout ne s'est pas passé exactement comme on le souhaitait. On était censé avoir quand même un groupe de locaux, des porteurs, des ouvreurs de voies, des macheteurs. Ça s'est pas passé comme prévu, du coup on s'est retrouvé réalisateur protagoniste, guide, médecin, ouvreur de voie. La première journée, on fait 4 heures d'ouverture de forêt, on avance de 300 mètres. Donc ça ressemble un petit peu au bouchon qu'il y a à Genève aujourd'hui.
Sur le pont du Mont Blanc,
c'est ça.
Donc, la première... Comme quoi, vous avez l'habitude.
J'ai l'habitude. Alors sincèrement, j'ai préféré la jungle. Mais non, on progresse extrêmement lentement, beaucoup plus qu'anticipé, et du coup, tout est mis en péril, finalement. Et c'est vrai que je crois que durant le film, on ressent bien cette espèce de quête, de ce Graal un peu magique. Et est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? C'est un petit peu autour de ça que tourne le documentaire, tout en saupoudrant le tout de la faune et la flore face à laquelle on se retrouve.
Il y a une richesse incroyable.
C'est magnifique. Le parc dans lequel est l'un des plus riches, un des mieux préservés du bassin amazonien. Il a une particularité, c'est qu'il y a un dénivelé de plus ou moins 1000 mètres entre le sommet du plateau, qui est complètement intégré dans le parc, et le niveau quasiment de la mer. Donc, ça crée tout un tas d'écosystèmes différents. Il y a 5 écosystèmes bien différents, propres à ce parc, qui fait qu'évidemment, la faune est différente en fonction de la zone, etc. Donc oui, c'est extrêmement riche, mais c'est difficile d'accès, en revanche.
Et puis vous aviez même, corrigez-moi pour le terme, des capteurs pour avoir des visions nocturnes.
Oui, absolument, c'est ça, on avait des pièges photographiques en fait, qui servent essentiellement pour la science, également pour les chasseurs un petit peu.
Hein, malheureusement.
Malheureusement, oui, sans doute. On les fixe sur les troncs d'arbres en fonction des traces ou des petites routes d'animaux qu'on repère dans la jungle, et puis on les a laissé la durée de l'expédition. On est parti un mois porte à porte, c'est les vacances que chacun a réussi à mettre de côté, et on les a laissés pendant quelques semaines du coup tout au long de notre progression, et puis à notre retour on les relevait, et c'est vrai qu'on a découvert tout un bestiaire qu'on n'a pas eu le loisir de découvrir de nos propres yeux, parce que les animaux, évidemment, sont beaucoup plus malins que nous, donc ils connaissent mieux la maison. Lorsque cette caravane de 10 personnes arrive dans la jungle avec
farouche
ses gros souliers,
aussi.
Mais ils sont extrêmement farouches, donc ils nous observent, nous on ne les voit absolument pas. Par contre, nos pièges photographiques nous ont permis de découvrir des espèces menacées comme le tapir, etc. Enfin, encore une fois, j'invite les auditeurs à aller découvrir le bestiaire qu'on a ramené sur ces pièges photographiques.
Et puis cette lagune, elle est mythique, elle est mystique, mais on la découvre grâce à vous. Pourquoi Chaplin ?
Alors, pourquoi Chaplin ? Alors, il y a effectivement un lien avec Charlie Chaplin. En l'occurrence, il y a, de ce que nous ont raconté les autochtones, hein, il y a une espèce de Che Guevara bolivien à l'époque, un guerriero qui doit fuir le gouvernement en place, je ne sais pas pour quelle raison, et visiblement, il aurait choisi de partir, se cacher dans le parc Molkenf, probablement sur les bords de cette lagune. J'imagine que ce monsieur a l'habitude de porter un chapeau melon, de marcher les pieds en canard avec une moustache et une canne, ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, ils aiment beaucoup les sobriquets. Donc il avait ce surnom de Chaplin. Et puis, voilà, étant donné qu'il aurait fini sa vie sur les bords de cette lagune, ils ont décidé de lui donner son nom.
Et cette lagune, elle existe grâce à vous, en tout cas plus que Google Earth. Et vous aviez un drone qui nous permet de la découvrir par des vues aériennes magnifiques.
C'est ça, effectivement, notre matériel l'a sauvé quelque part un petit peu l'expédition. Après, reste à savoir comment, dans quelles conditions est-ce qu'on a découvert cette lagune. Mais c'est vrai qu'on était heureux d'avoir la technologie actuelle avec nous qui nous a véritablement sauvé l'expédition, qui a sauvé l'expérience, ça c'est vrai, ouais, effectivement.
Et puis, vu la difficulté de pouvoir s'hydrater et bien sûr de se laver pendant votre parcours, quand vous arrivez à la lagune, c'est le paradis.
C'est... Alors, le paradis, sans doute, disons qu'on a le sentiment du devoir accompli quelque part, l'épanouissement, c'était un très beau moment. Après, ça reste l'enfer amazonien, des caïmans, des serpents, des araignées, des abeilles, des moustiques. Donc, une espèce de paradis, ouais, peut-être.
Et puis les abeilles, donc ici on nous dit de vraiment de prendre soin des abeilles, de les ménager parce qu'elles sont en voie de disparition. Là-bas, apparemment, elles sont assez peuplées. Hein.
Oui, c'est ça. Je pense qu'ils ne sont pas au courant que les abeilles sont vraiment en danger à travers le monde parce que c'était une surprise pour nous. Mais tout au long de notre expédition, on a croisé, je pense, des centaines de milliers d'abeilles qui nous tombent dessus parce qu'elles se nourrissent de sel, évidemment. Donc elles viennent s'infiltrer sous nos t-shirts, etc. Évidemment, le corps humain avec
la transpiration.
Voilà. Donc elles viennent se nourrir de sel. Et puis, lorsqu'on fait un faux mouvement, évidemment, elles pensent à se défendre parce qu'elles se sentent attaquées. Elles nous piquent. Donc ça représente sur un mois d'expédition une trentaine, une quarantaine de piqûres d'abeilles et de guêpes chacun. Donc, ouais. C'était une expérience, toute une expérience à ce niveau-là, effectivement.
Et puis une question, maintenant que vous êtes de retour, le temps passé là-bas, on peut des fois ramener quelques parasites, de ce côté-là, ça allait ?
Oui et non. Donc on a effectivement, étant donné qu'on avait des soucis avec l'eau, on n'a pas pris les mesures d'hygiène qui auraient été nécessaires, et on a tous ramené un parasite intestinal.
Des amibes ?
Oui, le guardia intestinal qui s'appelle communément la fièvre du castor. Donc les castors font leur barrage en amont de la rivière. Nous, on boit l'eau en aval, alors que les animaux font leur déjection dans la rivière, et ils nous transmettent ce parasite. Qui est gênant, mais qui s'évacue tout seul pour certains. L'un d'entre nous a dû se faire traiter par antibiotiques, etc. Donc ça a duré quelques semaines après notre retour. Mais je dirais que c'est, voilà, c'est la petite cicatrice de guerre, hein, pour tout ce labeur qui est accompli.
Et puis on entend un de vos porteurs qui dit, aussi Don Pedro, si je ne m'abuse, qui dit au début, on pensait tous que c'était una locura, une folie ce voyage.
Ouais,
et à la fin, qu'est-ce qu'ils en ont retiré ?
Alors, je pense beaucoup de fierté, hein, parce qu'encore une fois, eux, de mémoire, ils ne connaissent personne, qui ont réussi à fouler les berges. Donc ils rentrent au village sans doute un petit peu en héros. Et puis voilà, la fierté encore d'avoir réussi malgré l'adversité à mener une expédition à bien. Ils étaient contents pour nous aussi, je pense. C'est vrai qu'on s'est beaucoup entraînés, on s'est tiré, on a lié des liens d'amitié évidemment avec ces gens. Il faudrait leur demander.
Mais vous savez, hein, mais je pense que j'ai pas le courage d'y aller, sincèrement. Je tiens à mon petit confort quand même.
Ouais,
et puis par contre, vous trois, Martine, Josh, et qui est actuellement en Inde, et vous, qu'est-ce que vous a apporté sur le plan personnel? Parce qu'on comprend que chacun, vous avez une motivation existentielle quasiment.
Oui, bien sûr. Je dirais que on a tous beaucoup, beaucoup envie d'y retourner, ou de retourner en tout cas quelque part, revivre ce genre d'aventure. On se rend compte que avec ce documentaire qui quelque part a dépassé un peu nos ambitions initiales, on est porteur d'un message aussi pour peut-être les jeunes générations. Quand on a réalisé quelques projections scolaires dans le canton de Fribourg, les échanges étaient magnifiques, on avait ces enfants avec des étoiles plein les yeux, et puis ça nous a rapporté beaucoup de choses, hein, je veux dire une satisfaction énorme, et puis l'envie peut-être de continuer dans cette voie. Durant notre film, on essaye de sans marteler le truc, mais de porter quelques messages écologiques qui nous tiennent à cœur. Après, je fais partie intégrante de la dégradation environnementale, donc j'ai pas la prétention. Et voilà, je ne me permettrai jamais de vous dire coupez votre robinet plus rapidement quand vous brossez les dents. Mais ceci étant, ça nous tenait quand même à cœur de faire passer quelques messages. Et on essaye, ça et là, dans le film, de venir saupoudrer notre récit de. Voilà, de ces quelques messages environnementaux. C'est vrai qu'actuellement, l'Amazonie bolivienne particulièrement...
Est brésilienne,
enfin l'Amazonie en général, la déforestation tout le monde, les forêts tropicales humides en général, rétrécissent de manière drastique d'année en année, mais vraiment, je sais que tout le monde le dit, et voilà, on a peut-être ras le bol de l'entendre, mais la situation ne s'améliore pas. Et voilà, avec ce film, on espère pouvoir amener notre minuscule petite pierre à l'édifice de la conservation qui engage tout un chacun.
D'ailleurs, Cédric, je rebondis sur ce que vous dites, ça touche aussi des populations autochtones qui sont menacées de disparition avec la déforestation.
Bien sûr, évidemment. Alors, dans le parc Nolkenf, il y a un projet, visiblement, d'après ce qu'on a appris, de route, d'autoroute qui traverserait les deux pays, Bolivie-Brésil. Donc voilà, on rencontre une scientifique américaine à notre tour d'expédition, Louis Zeman, qui a sommité là-bas en matière de mammifères notamment. C'est vraiment une scientifique vraiment renommée.
Qui a passé plusieurs décennies déjà là-bas.
Alors, oui, qui y est depuis les années 90, qui retourne chaque année. Donc c'est vraiment Madame Parque Nolkenf Mercado. Et elle nous explique qu'elle espère qu'à travers des missions comme la nôtre, on va pouvoir faire rayonner le parc Nolkenf suffisamment pour que le gouvernement se rende compte, finalement, de son attrait touristique, peut-être, scientifique, environnemental, autre que simplement une énorme surface à dévoiser pour planter des palmeraies, des palmiers à huile. Donc,
Et puis, alors, je rebondis sur un autre point que vous avez mentionné, Cédric, justement, l'environnement, la préservation. Vous avez pu fonctionner avec des panneaux solaires pour recharger tout votre matériel.
Fantastique. Tout notre matériel, à l'exception des batteries du drone, qui avait un ampérage qui était malheureusement trop grand pour nos panneaux solaires, mais c'est des petits panneaux solaires, il faut se rendre compte, on les déplie de notre sac à dos, et puis ça nous permettait de recharger les batteries de nos caméras, de nos appareils photo, de notre laptop, pour décharger les images le soir sur le disque dur. Donc on est comme au fin fond de la jungle avec un ordinateur et puis tout un tas de matériel, et on fonctionne en autonomie grâce au soleil. Donc extraordinaire, nous-mêmes on n'y croyait pas forcément, mais ça a marché, on aurait pu tenir comme ça ad aeternum presque.
Donc c'est un message important pour les auditeurs aussi, parce qu'on se dit que dorénavant on peut de plus en plus fonctionner avec l'énergie solaire.
Bien sûr, évidemment, ouais, je pense qu'il faut préconiser ce genre d'énergie renouvelable. Après on sait comment ça se passe, on va pas rentrer dans les grands débats à ce niveau-là, hein, mais bien sûr, l'énergie solaire est là.
Alors Cédric Strand, vous êtes un des trois comparses. On rappelle peut-être les prénoms et noms de vos comparses pour l'objectif sauvage.
Bien sûr.
Martin
Ureta.
Ureta, qui est suisse ou argentin.
C'est ça, exactement.
Ou argentino-suisse.
Ouais, l'un ou l'autre.
Ouais. Ouais. Et Joshua
Preisberg,
qui lui est bien suisse.
Il est canado-suisse.
Preisberg, comme quoi, c'est troublant. Ouais. Hein. Il est pas suisse au nom. Hein.
Il est canadien de Colombie-Britannique, de par sa maman. Magnifique région, de Moran. Et moi-même, qui viens du canton de Berne.
Voilà. Et colonisé par les Vaudois.
Le natif, bien sûr.
Voilà. Ouais. Et on peut parler rapidement de vos projets aux trois, puisqu'on doit bientôt se quitter.
Bien sûr. Actuellement, on se concentre vraiment à faire rayonner l'objectif sauvage un maximum à travers les salles de cinéma. Donc, la tournée commence mardi, mercredi, on est au cinéma L'Escala. L'équipe représentée par Martin et moi-même, on sera là pour répondre aux gens, aux spectateurs, on fera un petit débat. Après ceci, le film va rester en fonction de la demande du public dans les cinémas de Genève, principalement des salles du Scala. Et, après, on voyage un petit peu dans toutes les villes, dans tous les cantons, en tout cas de Suisse romande, de Fribourg, Neuchâtel, beaucoup dans le Jura, qui sont assez friands de ce genre d'interaction avec les réalisateurs. Un petit peu dans le Valais, montait, on espère pouvoir remonter jusqu'à Sion, qui sait.
Merci Cédric.
Merci à vous.
On attendra le prochain objectif, qu'il soit sauvage ou pas.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon courage pour le retour.
Merci.